c'est un peu l'espoir ici, même s'il reste fébrile. Mais c'est vrai que dans son message hier lu à Diyarbakır, cette grande ville du sud-est à majorité kurde, le leader du PKK, emprisonné depuis 1999, a parlé une nouvelle fois d'un cessez-le-feu unilatéral et aussi a demandé clairement aux militants du PKK de se retirer du territoire turc, de cesser leurs opérations. C'est interprété ici comme un geste de bonne volonté, un signal que la paix après 30 ans de guerre et plus de 40 000 victimes pourrait être possible ici en Turquie.
N'empêche, à quatre reprises déjà, depuis le début de sa rébellion en 1984, Abdullah Öcalan a proclamé des cessez-le-feu unilatéraux. Jamais jusque-là, ils n'ont permis de déboucher sur une solution, n'est-ce pas ?
Effectivement, il y a eu beaucoup d'espoir déçu dans ce conflit larvé. Quatre fois, un cessez-le-feu unilatéral a été décrété et à quatre reprises, ce cessez-le-feu a finalement été abandonné et a abouti à des combats encore plus sanglants, encore plus meurtriers. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prudence en Turquie et de la part du gouvernement et de la part des Kurdes, des représentants du parti pro-kurde de la paix et de la démocratie. C'est un peu fébrile, mais il y a aussi beaucoup de choses qui donnent espoir, notamment le fait que pour la première fois, Abdullah Öcalan est reconnu par le gouvernement turc comme un interlocuteur direct, c'est-à-dire que pendant des années, depuis 30 ans, jamais il n'était envisageable de parler dans les médias de discussion entre les services secrets turcs, entre le gouvernement turc et celui qui ici est encore considéré comme un terroriste, un tueur d'enfants. C'est ainsi qu'une large partie de la population turque le désigne encore. Et le fait que ces négociations soient menées depuis un peu plus de 3 mois de manière directe et surtout de manière ouverte et médiatisée, on en parle dans les médias, ça c'est une avancée qui cette fois-ci fait penser que ça pourrait être la bonne.
Toujours est-il qu'il y a d'autres obstacles, à commencer par le sort réservé à Öcalan lui-même. Ensuite, une majorité de Turcs rejette l'idée d'une négociation directe avec lui parce qu'il est largement considéré comme un terroriste ou un tueur d'enfants. Alors, pensez-vous vraiment qu'il est possible de surmonter de tels obstacles ?
Alors, effectivement, dans la classe politique turque notamment, ou en tout cas pour les partis représentés au Parlement, il n'y a pas d'unanimité sur les pourparlers en cours. Par exemple, hier, alors que les lettres d'Öcalan étaient lues à Diyarbakır, au Parlement turc, dans l'hémicycle, des députés du parti ultranationaliste, le MHP, avaient épinglé sur les sièges, leur siège de député, une photo, une carte de la Turquie avec le drapeau turc pour montrer leur opposition à ces négociations de paix. Il y a beaucoup de questions, de points d'interrogation qui restent en suspens. Vous avez parlé du sort qui pourrait être réservé à Öcalan. Hier, un des mots d'ordre de la manifestation, c'était « Liberté pour Öcalan ». Ce n'est pas du tout encore quelque chose qui sort de la bouche du gouvernement. Pas même une amnistie générale, parce qu'il faut aussi savoir se poser la question, que va-t-il arriver de ces combattants qui vont se retirer du territoire, ceux qui notamment ont eu part dans des actions meurtrières, quel sera leur sort? Et puis, il y a beaucoup d'autres questions d'ordre plus légal, constitutionnel. La Turquie actuellement essaye de réécrire sa constitution qui est héritée du coup d'état militaire de 1980, qui est la réforme pour les droits de la minorité kurde, notamment la question de l'éducation dans la langue maternelle, la question de la définition de la nationalité, de la citoyenneté, qui est encore une définition très ethnique. Ça, ce sont beaucoup de questions, de points d'interrogation qui font dire que nous ne sommes qu'au tout début du processus.